Depuis maintenant deux décennies, Sportmax est fier de promouvoir le sport Beauceron et les athlètes de chez nous. Sportmax avec Éric Veilleux. Du lundi au vendredi dès 17h.
À Sportmax, on a pensé à vous qui êtes confinés à la maison, qui devez donc rester auprès des vôtres et en cabané, en bon Beauceron. Alors à ce moment-là, ben, à un moment donné, on peut se tanner un peu de la TV ou de l'ordinateur et ça peut être une très bonne idée de s'offrir quelques lectures. Simon, t'en as quelques-unes pour nous autres. On commence avec quoi aujourd'hui?
On va commencer avec un livre qui a été publié par Daniel Coyle, qui est un auteur, donc qui lui a décidé de faire de la recherche sur le talent. Okay. Et là, on va au-delà du talent sportif. Lui s'est intéressé à la question, est-ce que le talent, c'est inné? Où ça peut être acquis? Tu sais que c'est une question qui va au-delà du sport, mais tu sais, souvent ça va arriver où tu vas aller voir un joueur d'hockey que tu trouves très bon, puis tu vas dire à lui, c'est inné.
Parce lui, que il est inné avec ce talent. Tu vois un petit gars ça qui patine il y a 6-7 ans, tu te dis, mais comment ça, il est fluide de même déjà à 6-7 ans avec son coup de patin, le petit Vera?
Exact.
Est-ce que c'est dans ses gènes? Il l'avait déjà?
Il s'est intéressé à ça. Parce que ce qu'il a constaté, c'est qu'il est allé dans les endroits au pays. Pas au pays, mais même dans le monde, où on développait le plus de... Exemple, il est allé à Cuba pour voir les lanceurs cubains. Comment on les développe? Il est allé à Moscou pour voir l'académie de tennis où on a développé Maria Sharapova, Marat Safin, tous les bons joueurs de tennis qu'on a développés au début des années 2000 au niveau du tennis mondial. Il s'est promené dans plein de ce qu'il appelle des hotbeds.
Oui, des donc, foyers de développement, exact. De développement de talent, si on veut. Là.
Il a regardé la façon dont on développait le talent. Il s'est intéressé à la science aussi derrière ça. Donc, il a parlé avec des neuropsychologues. Et c'est vraiment une recherche qui est intéressante. Donc, ça s'appelle le livre « Le petit livre du talent » de Daniel Coyle, qui est un genre de résumé de l'ouvrage anglophone qui s'appelle « The Talent Code ».
Okay.
Donc, c'est 52 points. Quand même assez rapide, qui résume un peu ses recherches. Fait que lui, il est allé au-delà de ça. Donc, il est allé au niveau de la musique, au niveau de l'art, au niveau de, bon, de tout ça. Il fait état de ses recherches là-dedans. Il y a quand même une majorité du livre qui est consacrée au sport, comment on a développé des sportifs talentueux avec des bonnes techniques. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que la façon dont on pratique est beaucoup plus importante selon le livre. Tu sais, on a tout le temps dit ça prend 10 000 heures. Je sais pas si tu te rappelles de ce problème. On disait ça prend 10 000 heures pour être
un pointe.
Exact. Ouais. Ce que lui identifie, c'est que c'est faux. La qualité de la pratique est beaucoup plus importante que la quantité de pratique.
Okay.
Donc, c'est un ouvrage qui va identifier tout ça, tous les points que lui a trouvés dans sa recherche.
Et est-ce que c'est important de pratiquer jeune? Tu sais, ce qu'il fait, il parle de ça aussi parce que...
Il parle de spécialisation versus généralisation. Donc, on parle des athlètes et même des artistes, peu importe. Mais on parle de faire plusieurs choses quand t'es jeune versus faire simplement une chose. T'sais, on parle des joueurs de hockey qui font de la glace 12 mois par année, 365 jours par année. C'est un débat maintenant dans le développement des athlètes, la spécialisation en jeune âge. Il en fait état, puis la spécialisation en jeune âge, c'est démontré que... Puis c'est pas juste démontré par ce livre-là, c'est démontré par toutes sortes d'ouvrages et de littérature scientifique qui dit que c'est très nocif à long terme pour le développement d'un athlète, peu importe la discipline.
OK.
Donc, c'est un livre qui est super intéressant.
Alors, on le conseille, celui-là, tu me le répètes, le titre?
Le petit livre du talent,
le
de
petit
Daniel,
livre
Daniel
du
Coyle.
Daniel Coyle, comme Charlie Coyle.
Comme Charlie Coyle.
Et le petit livre du talent.
Exact.
OK, deuxième suggestion littéraire sportive.
Je vais te nommer le nom du livre, essaie de deviner de quoi ça parle. Le livre s'appelle Rafa.
Ah, ben là, sachant plus que tu es un amateur de tennis, c'est sûr que c'est Raphaël Nadal.
Exact. Parce que dans le monde de la littérature au niveau sportif, on peut lire différents types d'ouvrages qui vont parler de recherche scientifique, un peu comme le petit livre du talent. On peut lire aussi des biographies. Puis moi, dans la panoplie de biographies d'athlètes que j'ai lues, je trouve que c'est la plus intéressante, la plus pertinente.
Ah oui.
De voir toutes les émotions. C'est un athlète qui a été beaucoup blessé aussi longtemps dans sa carrière, oui. Où il a manqué des grosses séquences de saisons sur l'ATP, ce qui l'a fait chuter au classement et autres. Donc, c'est super intéressant de voir la résilience de cet athlète-là. Le nombre de personnes qui travaillent autour d'un joueur de tennis maintenant en 2020.
Tant que ça, parce que j'aurais l'impression qu'il y a un coach, un psychologue, puis un nutritionniste.
Ah, ça va des équipes de 15-20 personnes.
Ben voyons, 15-20.
Un joueur comme Raphaël Nadal.
Comment 15-20 personnes?
C'est 2 à 3 physios, 2-3 entraîneurs privés, 2-3 entraîneurs de tennis pour préparer les stratégies.
Ils ont-ils un entraîneur de service, un entraîneur de revers, un entraîneur de...
Pas encore.
OK, parce qu'au golf, t'as des entraîneurs de potting. Là, puis t'as des entraîneurs de...
Non, pas au tennis encore, mais okay. C'est ça. Mais t'as plusieurs entraîneurs. L'entraîneur principal de Raphaël Nadal, qui est plus autant avec lui qu'auparavant, c'est son oncle, Tony Nadal, qui était l'oncle de Raphaël, qui l'a entraîné jeune.
OK.
Puis il y avait une drôle d'histoire, d'ailleurs, qui circulait à propos de Raphaël Nadal. Tu sais, c'est le meilleur gaucher sur le circuit de l'ATP. Il y a une rumeur qui disait que jeune, il était droitier. C'est son oncle qui l'avait forcé à devenir gaucher pour avoir un avantage sur les droitiers.
Tu me niaises.
Ouais, il y avait une rumeur, mais Nadal dément ces rumeurs-là okay. dans son livre. Mais c'est super intéressant de voir la préparation, la résilience, l'impact que ça a sur le corps humain aussi. Puis, tu sais, Raphaël Nadal, dans son livre, il dit « Jouer au tennis par plaisance, c'est excellent pour le corps. Jouer au tennis comme carrière, ça détruit le corps. »
Oui, hein. Puis on pourrait faire des parallèles avec d'autres sports aussi,
le football,
là, des joueurs de football, des catcheurs au baseball, des lanceurs au baseball. Là, Éric Gagné disait « Je n'étais plus capable de lever mon enfant d'un
exact.
An dans mes bras. » Puis le sport professionnel, c'est ça, ça vient avec ça. Les gars ont des belles carrières, ils sont adulés, ils ont des millions, puis ils ont un avenir financier pour eux et leur famille, mais c'est un sacrifice. Tu vas sacrifier ton corps. Si tu joues à des hauts niveaux et que tu domines en plus, là, sont rares, les gars. Comme on dirait que Wayne Gretzky, lui, tout va bien, là, mais sont rares.
C'est plus rare, oui. C'est plus rare. Puis, tu sais, dans le cas du livre Rafa, c'est un ouvrage qui est quand même âgé dans le sens que ça date de 2013. Donc, c'est sûr que les deux dernières années sont pas là. Mais les sept dernières années, excuse. Mais son jeune temps, le début de sa carrière, les premiers titres, son match de 5 heures contre Roger Federer à Wimbledon, comment il l'a vécu, comment les joueurs l'ont vécu, la façon que Roger Federer agissait, sa façon à lui, c'est vraiment intéressant. Puis le côté mental des joueurs de tennis, moi, me fait toujours capoter parce que c'est des joueurs qui sont deux sur le terrain, ils n'ont pas le droit d'avoir leur coach. Et le match dure 4 heures, 5 heures. Il y a des millions en jeu. Il y a des millions et des millions de personnes qui les regardent à la télé. Ils ont des close-up de leur face après chaque coup quand ils ratent un coup droit, un revers, un amorti. Donc, pour moi, ces gars-là, c'est des machines au niveau du focus, de la concentration. Puis, le livre nous explique plusieurs principes de ça et comment il a été élevé, l'attitude qu'il a pour en arriver à avoir de la constance dans ses performances comme ça aujourd'hui. Donc, c'est un ouvrage que je recommande à n'importe qui adore le sport.
Un must pour tous les amateurs de tennis et de sport. Donc, Rafa, tout simplement.
Exact.
Autant en français qu'en anglais, d'après moi.
Exact.
OK, troisième suggestion littéraire. Là, on sort du tennis.
Oui, on s'en va au hockey pour ce livre-là. Qui est un livre écrit par Yves Archambault qui travaille avec Hockey Québec, qui s'appelle « Rencontre au sommet du hockey international, tête-à-tête Finlande-Québec ».
Comment ça?
Donc, il y a eu une rencontre entre les dirigeants de Hockey Québec et les dirigeants du hockey en Finlande pour échanger des idées. Donc, on n'essaye pas de dire « mon programme est meilleur que le tien », on essaye d'échanger des idées pour que eux, leur programme, prennent peut-être certaines choses de nous ce qu'on fait. Et même chose pour nous. On sait que les Finlandais mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur le développement des habiletés, sur les heures d'entraînement en jeune âge. Donc, si on compare avec ici, tu vas avoir deux matchs. Exemple, tu joues à tombe, tu joues novice. Tu vas avoir deux matchs de 50 minutes dans une fin de semaine. Durant la semaine, tu vas avoir deux entraînements de 50 minutes. Donc, ton ratio d'entraînement versus match est pas mal le même.
Ouais.
Si on regarde la Finlande...
Sûrement pas, eux autres pratiquent beaucoup plus qu'ils jouent.
Ils jouent presque pas. Ils vont faire des tournois durant l'année où ça va être une fin de semaine de showcase, de tournois, où on va évaluer un petit peu les autres, les uns par rapport aux autres, mais la grosse emphase est mise sur l'entraînement en jeune âge. Donc, c'est toutes sortes d'idées qui en sont ressorties, autant du Québec que de la Finlande. Puis pour n'importe quel passionné du développement du hockey, puis qui...
Donc, tous nos entraîneurs qui ont des équipes mineures...
Oui, c'est super intéressant.
Mais encore là, c'est pas évident pour l'entraîneur, parce que tu coaches, mettons, du
Mais tu
du
gères
hockey.
Pas les grandes lignes.
C'est ça le problème, c'est que t'as beau coacher une équipe à Tombe, à Saint-Ephraim ou à Saint-Prosper, c'est pas toi qui vas décider le nombre de games qu'il va jouer l'an prochain encore. Là,
non.
C'est ça qui est plate.
Exact.
Un peu.
Mais tu sais, comme nous, on a fait des changements quand même dans notre programme aux élites Beauce-Appalaches, dans le sens que, tu sais, on s'assure, parce que dans le temps, on le demandait, mais peut-être qu'on s'assurait pas assez de ça, qu'on est à jour au niveau de la façon d'enseigner les habiletés et qu'on met du temps là-dessus avec nos entraîneurs, ne changent pas leur planification parce qu'ils ont perdu à cause d'un mauvais désavantage numérique en fin de match.
Oui.
Puis là, ils disent, on va faire du désavantage numérique cette semaine. Donc, on travaille énormément les habiletés. On essaie d'en faire encore plus avec nos joueurs à Tombe. On essaie d'organiser des cliniques. On essaie de donner du temps de glace supplémentaire d'entraînement à nos jeunes joueurs pour leur montrer les bonnes techniques. Parce que pour avoir été entraîneur Bantam 3A, Midget Espoir, un joueur qui est parti avec les mauvaises bases, c'est extrêmement difficile à changer et c'est minime qu'est-ce qu'on peut faire.
Si tu patines mal et t'es rendu à 14 ans, 13 ans, oublie ça.
Il y a tellement de joueurs de talent qui n'ont pas été au niveau supérieur parce que la façon dont ils ont appris à patiner n'a pas été la bonne.
C'est ça.
Je pense que si on peut encore raffiner ça en jeune âge, ça va être encore... Tu sais, ça veut pas dire qu'on va sauver tout le monde. Il y a un côté physiologique à la façon dont tu patines aussi, que ça n'est pas contrôlable nécessairement. Mais la façon dont on enseigne les techniques, nous, c'est primordial dans les dernières années chez les élites. Puis ce livre-là est vraiment intéressant parce qu'on parle des techniques et du temps, la façon qu'on travaille en Finlande pour montrer ces techniques-là, maniement, lancer, tout ça. Donc, pour n'importe quel entraîneur et personne qui est intéressé au développement du hockey, c'est super intéressant.
Fait que tu nous rappelles le titre, donc, de ce clash ou plutôt de cet échange-là de philosophie entre le Québec et la Finlande.
Ça s'appelle « Rencontre au sommet du Québec du hockey international, tête-à-tête Finlande-Québec ».
C'est un long titre, pas mal.
On aurait pu appeler ça Finlande-Québec hockey, quelque chose de même.
Là, titre est meilleur, le livre est meilleur que le titre.
Exact.
C'est bon, quatrième suggestion maintenant, Simon.
On va passer pour ceux qui sont capables de consommer de la littérature anglophone.
Oui.
On va passer à des livres qui sont dans la langue de Molière.
Shakespeare. Ouais. Molière parlait peut-être un peu anglais, mais...
T'as raison. Bon.
Non, on t'en dirait que je peux pas couper aujourd'hui.
OK.
Contrairement à hier où tout le test, je t'ai fait du montage pour que t'aies des bonnes réponses, là.
Ouais.
C'est ça.
Donc, ça s'appelle... ça s'appelle Peak, The New Science of Athletic Performance That is Revolutionizing Sports.
OK.
Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'à chaque Jeux olympiques, on a des spécialistes qui suivent tous les athlètes, les équipes d'entraînement, et on essaie d'aller identifier, parce que tu sais que c'est une compétition entre les pays, les Jeux olympiques.
Mm-hmm.
Donc, la technique du Brésil pour développer son joueur de volleyball, on garde ça secret, on veut pas trop l'identifier, on veut garder ça pour nous parce qu'on veut que nos athlètes soient à la pointe. Puis, ces auteurs-là font leurs petites enquêtes pour connaître les méthodes d'entraînement un petit peu partout, au niveau que ce soit des nouvelles informations au niveau des cycles de sommeil, au niveau des méthodes d'entraînement pour les haltérophiles et tout ça. Donc, on va toucher vraiment à tous les sports et on fait le tour de pas mal toutes les sphères athlétiques pour un athlète aujourd'hui. Donc, on parle de nutrition, on parle d'entraînement en salle, on parle d'entraînement cardiovasculaire, on parle de... on va parler aussi de nutrition, je n'ai parlé, hydratation, ouais. On va parler d'hydratation, on va parler de technique au niveau psychologie sportive aussi. Donc, on va vraiment faire le tour de toutes les facettes des athlètes olympiques. Fait que c'est super intéressant parce que c'est très actuel. On parle de technologie des équipements aussi. On va vraiment parler de tout ce qui touche à la performance d'un athlète. Donc, ça va très large et on essaie d'aller chercher toutes les techniques que tous les pays ont utilisées. C'est la fine pointe de la technologie. On essaie différentes choses. On a toutes sortes d'équipements maintenant pour mesurer nos techniques d'entraînement. Donc, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement... c'est beaucoup plus scientifique peut-être que les derniers ouvrages qu'on a parlé, par contre. Ça, il faut le dire. Mais c'est super intéressant parce que on voit qu'au niveau de la préparation des athlètes olympiques, il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Encore donc pour des entraîneurs, pour peut-être des professeurs d'éducation physique?
Ben, ou... des passionnés, juste des passionnés de sport, d'entraînement, comme tu dis, éducation physique. Tu sais, je vois plein de passionnés d'entraînement qui sont dans les salles un peu partout, en boss, en gym et tout ça. Donc, c'est super intéressant de lire un peu qu'est-ce que la science nous dit par rapport à l'entraînement en 2020 des athlètes olympiques.
Excellent. Donc, tu me répètes le titre de celui-là?
C'était long, hein?
Il était long un peu.
On l'appelait Peak.
Peak.
Juste Peak.
OK.
Fait qu'on... Parce que j'ai peur de me tromper si jamais je te relis le titre au complet, de m'enfarger dans mes mots. Fait que je vais te lire Peak.
Bon, ça rend peu heureux le direct. Un petit dernier pour la route. Ouais. Est-ce que c'est une biographie, celle-là?
Non, c'est un autre auteur qui a fait de la recherche. De la recherche. Pas tout à fait, là. Dans le fond, le livre s'appelle Bench Bosses, Behind the Bench, Inside the Minds of Hockey's Greatest Coaches.
OK. Est-ce qu'il y a plusieurs coachs de la Ligue nationale, dans le fond, qui sont dans ce livre-là?
Exact. Puis des coachs qui sont actuels encore. Donc, on parle de, actuel. Mike Babcock, qui était actuel, là pas si longtemps. mais Joel Quenneville, on parle de Dan Bylsma. On parle de plusieurs autres entraîneurs qui sont encore à l'emploi dans la Ligue nationale. Et lui, ce qu'il va aller faire, je donne l'exemple de Bylsma, il va aller chez lui, il va emmener le DVD du match numéro 7 entre les Pingouins et les Red Wings, alors que les Pingouins ont remporté le match. On en parlait hier, d'ailleurs, dans le questionnaire.
Avec deux buts de Max Talbot.
Où je n'ai jamais triché, je veux le rappeler aux gens. mais il va aller regarder le match et il va passer en entrevue pendant le match, Bylsma. Donc, à ce moment-là, à quoi t'as pensé? Tel joueur, comment il a réagi? Quand il a pris telle punition? Quand t'es rentré dans la chambre entre la 2 et la 3, vous meniez par 1, qu'est-ce que t'as dit à tes joueurs? Qu'est-ce que t'as parlé avec ton autre entraîneur? Donc, c'est vraiment... tu sais, c'est inside.
C'est
là,
ça, c'est derrière. Ça. C'est comme un 24CH. Si on veut, t'es vraiment dans les coulisses. Puis il doit y avoir des affaires croustillantes, là, tu sais, que jamais les journalistes ont réussi à avoir comme info. Là, que...
Super intéressant parce que quand ça vient de se faire, ils te diront pas tout, mais tu sais, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Tu regardes ça avec un café, avec un journaliste, t'es bodé un petit peu. Fait que tu vas être porté à en dire un peu plus. Puis j'ai été surpris de même voir jusqu'à quel point les entraîneurs se sont confiés et ont dit des choses qu'on s'attendait pas, que moi je m'attendais pas, puis c'est vraiment super intéressant de lire. Tu vois leur philosophie un petit peu là-dedans aussi, comment ils avaient préparé leur équipe. Donc pour n'importe qui est un maniaque de hockey, qui est un maniaque de sport, tu vas revivre certains moments parce que tu sais, il va pas regarder la game du 3 octobre qui voulait rien dire en saison régulière.
Non.
Il va aller voir des moments marquants de la carrière de cet entraîneur-là où il va parler de la relation avec un joueur qu'il a eu. Donc beaucoup de choses que sont vraiment intéressantes pour n'importe quel amateur de hockey. C'est pas simplement du langage de coach. Tu sais, tantôt, je te parlais de P, qui est un petit peu plus scientifique, peut-être un peu plus niché. Dans ce cas-ci, je pense que ça peut intéresser n'importe quel amateur.
Là, t'es anecdotique, là, plus que scientifique.
Ouais,
là,
exact.
C'est vraiment exact. Du crunchy aussi.
Exact.
Ah, c'est bon. Il s'appelle comment, ce livre-là?
Behind the Bench, Inside the Minds of Hockey's Greatest Coaches.
Behind the Bench.
En anglais encore.
Behind the Bench, Inside the Mind of Hockey Greatest Coaches.
Et vous remarquez qu'Éric ne fait pas le pluriel en anglais.
Ben là, ça dépend, je suis sélectif. Où est-ce que je l'ai manqué? Behind the Bench, Inside the Minds... Ah, Minds of Hockey Greatest Coaches.
Hockey's.
Voilà, tabarnak.
Hockey's Greatest Coaches.
Bon, fait que tu me changeras un apostrophe puis un S tantôt à sortie. Hey, d'ailleurs, Behind the Bench, c'est le nom de la chronique en français avec Stéphane Poulin derrière le banc.
Oui.
Et demain, elle sera très croustillante et anecdotique.
Oh.
T'as pu entendre quelques-unes de ses anecdotes dans le couloir cette semaine.
Je sais pas si elle se raconte toutes, par contre, mais je pense que Stéphane en a plusieurs.
Il coachait comme un vieux de la vieille ou un vieux, mais par bout, en tout cas, on va l'entendre demain, c'est sûr et certain. Tu seras là aussi demain pour la dernière de la semaine. On aura des annonces à faire d'ailleurs là, quant à la programmation du 103.5 et Sportmax aussi pour les prochaines semaines à vous faire très bientôt. Simon, c'est très intéressant ces lectures-là et j'invite les gens à communiquer avec nous d'ailleurs là, s'ils ont des questions ou qu'il y a un titre qui leur a échappé. Sinon, sur la section podcast aussi, vous pouvez réentendre cette chronique-là. Première chronique littéraire sportive, je pense, des 20 dernières années à Sportmax. Merci beaucoup, M. Larouche.
Fait plaisir, Éric.